français.
On va parler du français et de francophonie, parce que vous le saviez. Bon, d'abord, vous le savez, vous êtes sur la chaîne francophone mondiale. Mardi, c'était la journée de la francophonie et c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de présenter son plan, sa stratégie à l'international pour promouvoir le français, le plurilinguisme. Un extrait.
C'est aujourd'hui un acte de confiance en notre langue que nous sommes résolus à accomplir, car nous sommes au seuil d'un moment nouveau de notre histoire et de l'histoire de notre langue. Nous passons de l'idée ancienne d'une francophonie qui serait la marge de la France à cette conviction que la francophonie est une sphère dont la France, avec sa responsabilité propre et son rôle historique, n'est qu'une partie agissante, volontaire, mais consciente de ne pas porter seule le destin du français. Car il est de la responsabilité de la France de faire vivre nos francophonies au service des peuples. Non pas comme un fauné de notre empire colonial, comme certains le prétendent, mais parce que nous croyons dans le destin de notre langue, dans ce qu'elle véhicule, dans ce qu'elle dit du monde où nous vivons, sans surplomb aucun.
Il y a des critiques contre la francophonie, relant de la France-Afrique, des colonies, le fait que la France pense que le français est sa propriété. Est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron a battu en brèche ces critiques?
Moi, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il y a quand même un problème de discours maintenant des autorités françaises au sens large, et ça dépasse le cas du président de la République actuel. Il a employé un mot que j'aime bien, il a parlé à propos de la francophonie, il a parlé d'un trésor. Alors un trésor, on en fait deux choses. Soit on l'enterre au fond du jardin ou au fond de la cale et puis on attend quelques siècles pour éventuellement le retrouver, soit on le ferait fructifier son trésor. Et la France, aujourd'hui, ne fait pas fructifier ce trésor qu'est la francophonie. Je dirais que même que non seulement elle ne le fait pas fructifier, mais d'une certaine manière, il y a des reculs sur plein de points. Il y a des reculs sur la présence francophone à travers le monde. Je pense en particulier au réseau des instituts français, dont on enferme beaucoup, malheureusement, alors que c'est des endroits où les gens viennent apprendre le français, viennent lire des journaux en français, viennent échanger des idées en français, rencontrer des auteurs, des cinéastes, etc. français. Je pense en particulier à un sujet qui m'est cher, puisque c'est la traduction. L'aide à la traduction recule en France en ce moment.
Tout ce que vous dites là, jusqu'ici, c'est des points sur lesquels Emmanuel Macron a insisté en disant on va faire un effort dans ce sens.
Eh bien oui, mais sauf que ça fait des années qu'on nous dit qu'on va faire un effort et ça fait des années qu'on assiste au contraire à des reculs successifs des autorités. Et donc je pense que là, il faut inverser très sérieusement la tendance.
Sur la dernière partie de votre phrase, je suis totalement d'accord, il faut inverser sérieusement la tendance. On peut au moins reconnaître au président Macron qu'il est le premier chef d'État à en faire l'objet d'un discours, d'une volonté de l'utilisation de l'instrument aussi, il ne le dit pas vraiment, mais on le sent bien, de l'utilisation de l'instrument de la langue aussi pour le rayonnement politique et économique de la France. Tout ça, c'est clair. Tous les autres, ils en parlaient peu, ça les intéressait pas beaucoup, et ils pensaient que c'était une espèce de carriole compliquée à trimballer, et qu'il fallait financer, etc. Deuxième point où je pense que notre ami a raison, c'est la décadence des institutions de la francophonie, et en particulier les instituts, les alliances, une espèce de guérillage bureaucratique, etc. Donc il faut mettre de l'ordre, il faut prioriser ça. Troisième point, il y a la francophonie réelle. Et là, on entend moins parler l'État français. La francophonie réelle, c'est quoi? C'est les études, c'est les échanges scientifiques, c'est les visas, qui est un point clé si on veut faire de cet espace quelque chose d'un peu vivant. C'est-à-dire, c'est pas que des Français qui voyagent, mais c'est des gens qui parlent français qui peuvent venir chez nous. Donc on voit bien qu'il y a, il y a toute cette mécanique qu'on a laissé se solidifier, s'ossifier, qu'on va essayer de moderniser. Le point, je pense, là où il a dit quelque chose de très important, c'est l'idée que la francophonie n'est pas centrale. C'est une espèce de langue qui appartient à tout le monde. Le français n'appartient pas à la France, le français appartient à tous ceux qui parlent en français. C'est assez révolutionnaire, ça aussi. C'est pas du tout dans la tradition française de dire que notre langue, elle appartient à un gars qui vit à Kinshasa, un gars qui vit à Dakar, un gars qui vit à Beyrouth, etc. Donc ça, je pense, c'est assez moderne.
Je rebondis sur ce que vous dites, puisque la France est, dans la francophonie, le seul pays à peu près qui n'est pas plurilingue. Est-ce que c'est à la France de défendre la francophonie? Est-ce que c'est la mieux placée, disons?
Je pense que justement, là, ça a été l'occasion d'ouvrir les portes aux autres, à tous ceux qui utilisent le français. On a vu plein d'éditos dans la presse de gens justement de Kinshasa, de Kigali, du Québec, dire ce que ça représentait pour eux. Et là, je le trouve assez inclusif, le président Macron. Les mots qu'il utilise, c'est une francophonie plurielle, on parle d'archipel. Ça veut bien ce que ça veut dire, c'est que chacun a sa pierre à porter. On a une ministre franco-belge, on a une ministre franco-marocaine, enfin on a des gens au gouvernement qui sont francophones et qui ont plusieurs nationalités. Moi, je crois qu'au contraire, il ouvre vraiment la porte. Et chacun va pouvoir y apporter ce qu'il a envie d'y mettre. Et d'ailleurs, dans les chroniques, il y a des choses très intéressantes. Excuse-moi, je termine juste, mais dans ce que j'ai pu lire, des gens, par exemple, qui critiquent le monde de l'édition en disant quand c'est très dur de publier en France quand on n'est pas français mais francophone. Les droits d'auteur, c'est vraiment dur de les récupérer. Voilà, et ben, on voit les pistes, on voit où est-ce qu'il faut aller. Et c'est très intéressant d'avoir le retour des uns et des autres. Et je crois qu'à cette occasion-là, ils se sont manifestés.
À propos de retour, Emmanuel Macron, évidemment, qui dit francophonie, dit Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, dans un avenir assez proche. C'est là que se trouvera la majorité des francophones. Comment ce discours a été perçu en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale?
Avec un certain, pas scepticisme, mais disons attente, on va voir si c'est un discours nouveau, est-ce que ça se traduit par des éléments concrets, parce que pour tous ces pays, l'enjeu politique de la francophonie, c'est pas vraiment très important, parce que le français est une langue endogène, c'est pas une langue qui vient de l'extérieur, c'est une langue qu'on apprend, etc. Ce qui est important, c'est les moyens qu'on donne à l'appui aux français dans les écoles, dans les universités, dans les matériels pédagogiques, etc., etc. Et deuxièmement, on dit souvent que l'Afrique est le terreau de la francophonie, ce qui est vrai, mais quand on regarde les statistiques en Asie, on s'aperçoit que le français est souvent la première ou la deuxième langue qui est apprise par des étudiants locaux, parce qu'ils pensent que le français est une porte vers l'Afrique, vers des territoires qu'ils ont envie d'aller explorer, conquérir, travailler, et donc le français sert de médium. Et que pour la France, c'est très important de considérer mentalement que le français est quelque chose de moderne pour les Français. C'est leur passeport vers le monde. Ça leur permet de voler un peu plus loin. Nous, on a été prisonniers d'une certaine manière de l'Union européenne, de la construction européenne, où on était coincés entre les Allemands et les Anglais avec notre petite langue que personne ne parlait. Voilà une langue qui est parlée par des centaines de millions de gens en dehors de l'Union et qui peut nous permettre de voyager, de nous déplacer, de faire des affaires, d'échanger culturellement, de bloguer, d'écrire, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait dire à la France.
Julien.
Alors que Bruxelles parle anglais d'ailleurs maintenant.
La bataille à l'Union européenne sur les traductions, il suffit de lire du 4 mer tous les jours pour nous dire on est en train de se faire balader sur les traductions à l'Union européenne.
C'est Jean 4 mer, qui a un casque-cœur aussi.
Il y a un aspect qui est tout simple aussi, c'est-à-dire que dès qu'on a cette vision-là, alors d'abord il faut soutenir tous les points d'entrée, les points d'accès, tous les relais finalement qui font que cette francophonie, c'est une francophonie au acte, une francophonie vécue, c'est une langue de l'émancipation, une langue poétique, tout ce qu'on veut. Et puis par ailleurs, il y a aussi peut-être des partis pris à prendre qui doivent être plus clairs. C'est-à-dire que il y a beaucoup de pays en fait dans la francophonie qui ont été par exemple concernés dans les derniers mois par des coupures d'accès à Internet. Donc parler par exemple de la circulation du français des idées alors qu'on coupe l'Internet, c'est pas possible. Le Cameroun par exemple, l'année dernière, 183 jours de coupure d'accès à Internet. Donc on peut dire que la France soutient la diffusion des idées, les mondoblogueurs et compagnie. Si les gens n'ont pas accès à Internet, je suis désolé, la francophonie, elle peut pas circuler, elle peut pas respirer. Togo, Ghana, enfin je veux dire, on peut multiplier les exemples.
Donc Emmanuel Macron c'est un des points. On a parlé du français comme d'une langue numérique, il a raison.
Et bien justement, dont axe, c'est-à-dire qu'il faut du coup être très clair vis-à-vis des opérateurs téléphoniques qui, par exemple, sont complaisants vis-à-vis des régimes. Peut-être qu'il y a des leviers.
Je pense que ça c'est très excessif. Si vous demandez à la francophonie des choses qu'elle n'est pas du tout en état de faire.
Et pourtant, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que l'OIF dit nous faisons tout pour.
Faire de la politique.
Nous, en tant que journalistes, on explique que pour l'instant, il y a des progrès à faire. Je ne fais que dire qu'il faut avancer.
Il y a effectivement des progrès à faire. Et il y a des progrès constants qui sont des progrès très simples dans les bagarres qu'on peut mener quotidiennement. J'appartiens à une organisation internationale et dans laquelle il y a quatre langues officielles, l'anglais, le français, l'espagnol et l'arabe. Nous veillons, section française, mais pas seulement section française, à défendre le fait que tous les documents d'Amnesty International soient traduits systématiquement en français, en arabe et en espagnol, et nous empêchons que des réunions se tiennent exclusivement en anglais. Donc je crois que ces petites bagarres au quotidien, elles sont très importantes. Maintenant, pour en revenir au cadre plus global de la francophonie et de l'usage du français dans le monde, moi je crois qu'effectivement, on ne peut pas être juste dans une espèce de vision, j'ai trouvé le discours de Macron, pour être franc, un peu bisounours et un peu gentil.
Exactement.
Cette espèce de plurilinguisme merveilleux, cette espèce de mondialisation heureuse qu'il incarne d'une certaine manière.
La francophonie intéressante, elle ne l'était plus.
Mais je suis
tout
pas d'accord avec
vous. Intéresse.
Moi, je pense que je me suis toujours intéressé à la francophonie, j'ai toujours défendu la francophonie, je me suis toujours bagarré et je viens de faire au Québec une interview d'une écrivaine québécoise d'origine asiatique, d'origine vietnamienne, qui m'expliquait pourquoi elle avait préféré écrire en français qu'en anglais, parce que le français lui donnait beaucoup plus de nuances dans la langue et dans l'expression orale. Donc voilà, il faut la former, il faut former ces gens-là et leur donner les moyens.
Et j'ai eu le même vécu l'année dernière à Madagascar, justement, au sommet de la francophonie avec des blogueurs, je pense, qui étaient tous réunis, et c'était hyper fort de voir à quel point cette langue, elle n'incarnait pas que des échanges économiques, ou que c'était vraiment une façon de communiquer, c'est des lueurs, des couleurs, enfin voilà, et donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu rigoureux, mais je pense qu'il faut vraiment défendre l'accès à l'information, l'accès à la culture, l'accès aux idées, et ça passe par tout un tas de
questions. Puis c'est une langue aussi, on le voit dans ce plateau, qui déclenche des émotions, des débats et des passions, ça c'est plutôt bien. Et